Vous écoutez toujours Radio Éthique, voici un sujet d'Audrey Scavinet.
La recherche en région PACA est florissante. La preuve, la métropole Nice-Côte d'Azur, la ville de Nice et le pôle enseignement-recherche Sophia Antipolis Nice ont organisé conjointement le 31 mai et le 1er juin 2013 le printemps des chercheurs. Cet événement qui se tenait place Garibaldi est une opération consistant à faire découvrir au public et aux scolaires la vitalité de la recherche en région PACA. Étant présent entre autres l'Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer, Marianne Cousin qui dirige les relations extérieures à l'Observatoire nous présente cet événement.
Parce que ce que nous avons voulu faire aussi dans un stand de présentation centrale, c'est présenter tous les laboratoires qui ont eu des projets d'excellence, compte tenu des projets donc de grand emprunt, investissement d'avenir. Vous avez ici, comme ça, les Niçois et tous les gens donc, de la région PACA peuvent voir que nos laboratoires sont producteurs de richesses et qu'on n'est pas simplement là en attendant passivement qu'on nous donne des subventions, tout ça, mais que nous allons nous-mêmes, et grâce à notre excellence, avoir les meilleurs prix de la recherche.
D'accord. Donc en fait, les stands qui sont présents ici, c'est pour présenter les résultats des recherches que mènent les différents laboratoires, c'est ça ?
Tout à fait.
Alors est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de thématiques qui sont traitées sur ces stands ?
Tout à fait. Par exemple, déjà, il y a une thématique qui représente à elle seule une coordination entre plusieurs laboratoires, qui est celle qui s'appelle Green Star. C'est le grand programme, l'Institut d'excellence des énergies décarbonées, pour, à partir d'un microalgue, produire du biocarburant et des molécules à haute valeur ajoutée. Et bien, rien que ce programme, là, ils réunissent 50 de partenaires, dont l'INRA, l'INRIA, le laboratoire donc de Villefranche. Tout ça, ça a été aussi labellisé et conduit par le pôle maire. Il y a aussi ACRI, il y a là-dedans des sociétés privées donc, qui sont très importantes. Bref, donc on est entre 50 et 60 partenaires là-dedans pour un projet donc, qui est à peu près d'une soixantaine millions d'euros et qui va pouvoir non simplement dans le futur, mais il faut compter quand même une dizaine d'années, pour avoir donc un modèle économique viable pour produire du biocarburant, parce que produire du biocarburant, on peut le faire. On peut faire même voler des avions avec du biocarburant produit par microalgues et autres, mais ça reste très très cher et donc ce n'est pas viable économiquement. Donc nous, l'idée, c'est que c'est faisable en laboratoire. On est en train de faire la preuve du concept déjà sur des petites surfaces de culture de microalgues pour produire du biocarburant. Et la phase qui est après la phase industrielle proprement dite, c'est en gros dans 10-15 ans. Parce qu'il n'y a pas simplement le biocarburant, mais il y a les molécules à haute valeur ajoutée qui sont très importantes en pharmacie, en cosmétique, etc. Ça, c'est un de projets. Par ailleurs, nous, à l'Observatoire de Villefranche, on vous présente aussi beaucoup de projets en rapport avec la mer, puisque comme vous savez, la mer Méditerranée, nous l'avons en héritage. Et donc, c'est notre héritage à préserver. Donc, nous présentons un programme sur l'acidification des océans pour montrer comment les concentrations de plus en plus croissantes de carbone, il y a le carbone qui n'est pas seulement dans l'atmosphère, mais 25% va dans les océans. Et ça produit donc avec le temps une acidification croissante qui va empêcher la croissance des organismes calcaires, les organismes qui ont, comme les moules ou comme les huîtres, qui ont donc du calcaire dans leur squelette. Et ça, c'est très préoccupant. C'est pareil aussi pour le corail, la grande barrière de corail, etc. Sinon, vous avez bien sûr aussi nos collègues de l'INRA, des collègues donc d'autres laboratoires qui présentent aussi les résultats de la recherche.
Et tout à l'heure, je me suis arrêtée un peu au stand des méduses. Alors, on va parler un petit peu des méduses, parce que je sais que c'est un petit peu problématique maintenant sur les plages. Pourquoi un stand sur les méduses ? Et est-ce qu'il est vrai qu'au fur et à mesure des années, il y a de plus en plus de méduses ? Et si oui, pourquoi ?
Premièrement, pourquoi on travaille sur les méduses ? Parce que comme vous dites, ça devient un véritable problème sociétal et ça envahit tous les gens le voient depuis une dizaine d'années. Ça envahit toutes les côtes du littoral de Menton à Saint-Tropez. Ça arrive maintenant donc dans le Var, Marseille. Et le problème, c'est que bon, il y a un grand spécialiste des méduses internationales qui s'appelle Jacqueline Gouin, qui est française. On pense que c'est donc des cycles tous les 10 ans qu'il y a des méduses. Mais en fait, on observe de plus en plus qu'il y a de plus en plus de méduses, que ce n'est pas réellement, pour le moment, des cycles. Et donc, il y a plusieurs causes à celle-là. Parmi les causes principales, le réchauffement climatique. Et il y a aussi le fait, la surpêche qui fait que les prédateurs des méduses, qui sont le thon rouge, qui sont les sardines, qui sont le poisson lune, qui s'appelle Mola Mola, la tortue de mer, ils disparaissent à la fois la surpêche, la pollution, plusieurs. Et donc, il y a un environnement qui est de plus en plus propice aux méduses, parce qu'elles survivent à tous les méduses. C'est pareil aussi, toutes les activités anthropiques. Anthropiques, ça veut dire tout ce qui résulte des activités humaines. Donc les polluants, tout ce qui est déversé dans la mer, tout ça, ça nuit beaucoup aux larves de poissons, ça nuit beaucoup donc à la croissance donc, des poissons, et ça profite d'une certaine manière aux méduses, qu'elles résistent à tout.
Mais elles s'en nourrissent ou elles y résistent juste?
Disons, pour certains déchets, elles s'en nourrissent, mais surtout elles résistent parce qu'elles se nourrissent beaucoup de larves de poissons. Justement, elles se nourrissent aussi de plancton, de copépodes, etc. Et donc, tout lui est propice. Alors, j'aimerais bien dire aussi qu'on a réussi une première au laboratoire, une première quasiment mondiale, c'est qu'on réussit à cultiver, à faire reproduire les méduses en laboratoire. On a réussi ça il y a quelques temps. Et pourquoi alors reproduire et s'amuser à cultiver des méduses? C'est tout simplement, c'est dans le cadre de programmes de recherche, parce que vous savez, quand on arrive à cerner parfaitement la biologie des méduses, ça nous permet après, grâce à nos modélisations, nos modèles, de prévoir, grâce à la connaissance de la biologie, premièrement, de faire des modèles pour prévoir où vont aller les essaims des méduses, parce que c'est du plancton, ça dérive avec les courants. Et deuxièmement, ça va nous permettre aussi éventuellement de concevoir quelque chose pour pouvoir limiter leur croissance. Parce que on ne veut pas, le but n'est pas d'éradiquer les méduses. Attention, on ne peut pas perturber un système écologique de cette manière violente. On veut tout simplement limiter la croissance et essayer donc que sur les côtes, les gens, les touristes qui viennent donc, soient relativement préservés.
Les laboratoires azuréens veillent donc à la santé d'un de nos plus chers héritages, la mer. Mais c'est également à nous tous d'y veiller, à notre échelle, les solutions étant pourtant si simples. Nettoyons les plages, ralentissons notre consommation de nourriture provenant des océans, et si nous faisons tous un peu et unissons nos efforts, il est sûr que nous assisterons très vite à de grands résultats.
C'était un sujet réalisé par Audrey Scavinet.